Seigneur, conduis-nous, dirige-nous dans ce temps d'enseignement et de méditation de ta parole. Te prions pour que cet enseignement puisse pénétrer au plus profond de nos cœurs et que non seulement on l'entende, mais je te prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions le vivre. Amen. Alléluia. Nous commençons avec ce verset. J'espère qu'à la fin de l'année, on le connaîtra par cœur, puisque à chaque fois que j'enseigne sur la base de ce verset qui est le fil conducteur de l'année. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Ça ne vous aura pas échappé que aujourd'hui c'est la Pentecôte. À quoi vous fait penser la Pentecôte ? À la colombe ? Langue de feu ? Effusion du Saint-Esprit ? À la paix, parler en langue, la moisson, une seule prédication et 3000 conversions. On en a envie, hein. Ah ouais. Je vais vous proposer une méditation, un enseignement sur quelque chose dont on n'a pas l'habitude, le jour de la Pentecôte. Et je dirais, alors c'est pas non plus trop mon habitude, parce que d'habitude je suis très soft hein, comme prédicateur, mais là je vous demande l'autorisation de dire tout ce que j'ai sur le cœur. Ça va pas vous plaire. Mais voilà, si vous me dites oui, j'y vais, si vous me dites non, j'y vais quand même. Mais ça va quand même mieux si vous me dites oui. Alors, recherchez Jésus pour une nouvelle Pentecôte. Jusque-là, tout va bien. C'est ce que nous pensons tous, nous voulons une nouvelle Pentecôte. Allez, Pentecôte, effectivement, 50 jours après Pâques, un des trois pèlerinages obligatoires avec Pâques et la fête de Soukhot, la fête des prémices, première récolte, le rappel du don de la loi au Sinaï et de l'alliance que Dieu fait avec le peuple. Voilà, mais j'ai d'autres enseignements à vous proposer ce matin. Acte 2, chapitre 2, versets 1 et 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Une autre traduction nous dit « Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Ils étaient tous d'un commun accord dans le même lieu. » Littéralement, d'après ce que j'ai pu lire, et c'est sur ce sur quoi je voudrais focaliser un peu, ils étaient d'un commun accord, tous ensemble, d'un seul esprit, d'un seul cœur, littéralement ce serait avec la même passion unanimement. Tout à l'heure on a entendu la prière de François qui nous parlait de passion, d'être saisi par l'Esprit-Saint. Alors, ça ne vient pas de moi, je l'ai recopié comme ça. Ce mot grec « ensemble » se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, mais 10 fois dans le livre des Actes, ce qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. Homotumadon, je pense la prononciation est peut-être pas bonne, est composé de 2 mots du sens « avec passion » et « à l'unisson ». L'image est surtout musicale, des notes sont jouées avec harmonie, bien que différentes en tonalité, comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un grand chef d'orchestre, le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église du Christ. Voilà, passion et unisson. Notre fils Étienne nous disait au téléphone il y a quelques semaines, le feu de Dieu ne descend jamais sur un autel qui est vide. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose sur l'autel. Ils étaient tous ensemble à prier, à attendre, à obéir, à avoir la foi. Ils avaient, les uns et les autres, le vif désir de vivre ce que Jésus leur avait dit. Ce qui m'interpelle, entre autres, c'est cette notion d'avoir la même passion à l'unisson. Chacun différent, mais chacun passionné par le Christ, chacun passionné par le royaume de Dieu, et à l'unisson pour vivre ce qu'il souhaite que nous puissions vivre. Ils avaient tous le même cœur à vivre l'ordre de Jésus qui était resté à Jérusalem jusqu'à ce que rester à Jérusalem. Ils auraient pu dire c'est un peu long. On est obligé d'attendre. 9 jours après, punaise, on est toujours ensemble et il n'y a rien qui se passe, quoi. Allez, on se casse. On se barre. On va vivre autre chose. Pas que ça à faire que d'attendre. Ce que je voudrais signaler là, c'est que la Pentecôte, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance avant de recevoir l'Esprit Saint. Tu cherches une nouvelle Pentecôte? Alors obéis. Ce n'est pas forcément le discours qu'on entend le jour de la Pentecôte, mais ce matin, c'est, je crois, le message du Seigneur pour nous. Je ne sais pas si certains ont dit « il y en a marre d'attendre, je m'en vais, j'ai autre chose à faire ». Rappelez-vous donc, Luc, chapitre 14, les versets 17 à 20. À l'heure du repas, le maître envoie son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant c'est prêt ». Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur « Je viens d'acheter un champ, je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je vais les essayer, je t'en prie, excuse-moi. L'autre encore dit, ben, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Je ne rentre pas dans le détail de ce texte, je voudrais juste dire que c'est légitime. Il se marie, il vient de se marier, hein, il va aller voir son champ, il va aller voir ses bœufs et les essayer. C'est légitime. Mais ça montre que pour ces trois-là, l'invitation du maître n'était pas une priorité. Dans le repas, il n'y a pas que le repas. Dans le repas, il y a la proximité. Il y a le fait de l'échange. On connaît bien ça, nous, les Français. Les repas pour des échanges, pour être proches ou plus proches les uns des autres, c'est de la convivialité, voire de l'intimité. Mais leur priorité n'est pas l'intimité avec le maître, leur priorité est ailleurs. Je te dis une chose, parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. Notre traduction dit, aucune de ces personnes qui avaient été invitées ne goûtera mon repas. Tu veux pas vivre l'intimité avec Jésus? Il en prend note. Tu ne seras pas invité. Tu ne seras plus invité. On parlait dimanche dernier, entre autres, des vierges sages et des vierges folles, et je proposais que chacun d'entre nous, nous puissions nous examiner pour savoir si nous n'étions pas une, pour savoir laquelle nous étions, et je demandais, ne répondez pas trop vite, quoi. Parce que si vous répondez trop vite, moi je me considère comme une vierge sage, vous pourriez peut-être être déçu de voir la porte fermée parce que vous n'étiez pas prêt. Tu veux pas de l'intimité de Dieu? Tu ne mets pas en priorité les choses du Seigneur? Alors tu ne mangeras pas le repas. Je vous avais dit, hein, c'était un peu... Vous m'avez permis, hein. Vous m'avez dit oui, je peux. Hein. En ce jour de fête de la Pentecôte, on reçoit le Saint-Esprit. Moi, je vous dis, enfin, la parole de Dieu nous dit, personne ne mangera mon repas si je ne passe pas en priorité dans sa vie. Tu veux une nouvelle Pentecôte? Ok, commence à obéir. J'ai dit à mes disciples, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en mesure d'être au bénéfice. Arrêtons de croire, cessons de croire que Jésus est un bisounours. Il est amour, aucun, on ne revient pas dessus. Mais avec son amour, il y a aussi une certaine exigence. Et il nous interpelle dans l'exigence qui est la nôtre. Tous ensemble, à l'unisson, avec un vif désir de vivre ce que Jésus avait promis, c'est probablement chaque jour qu'ils se réunissaient afin d'être là au moment où Jésus souhaitait qu'il soit là. Nous le chantons souvent, Seigneur, là encore ce matin, on veut faire ta volonté. Viens, règne, Seigneur, en nous. Sois souverain. Là, on le dit, on le chante, on a du mal à le vivre. Arrêtons de nous voiler la face. Jésus n'est pas un bisounours. En même temps qu'il est amour, il est exigeant. Il ne fait pas dans la demi-mesure. Le fait d'être ensemble a une force incroyable. J'ai bien apprécié Aurélie, dimanche dernier, lorsque tu as demandé à ce qu'on prenne tous ensemble la scène. Bien. Tous ensemble, pour vivre ce que le Seigneur nous donne de vivre. Permettez-moi d'être un tout petit peu plus incisif. Comme si ça l'était déjà pas, mais bon. Il y a quelques semaines, une personne m'a envoyé par mail, m'a envoyé une pensée qu'elle avait reçue. Hello Bernard, j'espère que tu vas bien. Hier, j'ai pris un temps de prière pour l'église et j'ai eu une vision de toi très forte, dans laquelle je t'ai vu marcher avec un boulet énorme au pied. Le même boulet que les esclaves ou les prisonniers. J'ai compris que le boulet représentait l'assemblée. Et j'ai compris que tu étais ralenti par l'assemblée, que peut-être même elle t'empêchait d'être réellement libre. Voici ce que j'ai vu interpréter. Je te laisse remettre cela entre les mains du Seigneur. Qu'il puisse lui-même t'éclairer et te dire ce qu'il souhaite te dire. Après ce partage que j'ai envoyé au reste de l'équipe spirituelle, Gérard a aussi reçu quelque chose. En fait, le souci n'était pas forcément que je traîne un boulet. Le problème, c'est que c'est le boulet. Et si le boulet, c'est l'assemblée, vous êtes le problème. C'est un peu...
Est-ce que l'interprétation est bonne ?
Je crois que l'interprétation est bonne. Oui. Oui, oui, je ne suis pas là pour accuser, machin, etc. Je suis juste là pour dire que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas celle que j'espère, personnellement. Pas celle que je voudrais. Et je crois que, effectivement, c'est toute l'Église qui est concerné. Effectivement, je ne peux aujourd'hui pas vivre le ministère apostolique auquel le Seigneur m'appelle, puisque je me dois de continuer d'être pasteur de l'Église, mais ce n'est pas parce que je me dois que c'est juste. Et dans notre discussion avec le conseil spirituel, on disait que même s'il y avait un autre pasteur qui venait, le problème serait toujours le même. Même si nous étoffons l'équipe spirituelle, le problème reste le même, c'est que l'Église reste un boulet. Le fait d'avoir quelqu'un pour me succéder ne règle pas le souci du boulet qu'est l'Église. Donc, je vais y revenir. Je ne sais pas si l'Église, quand je dis l'Église, Je ne sais pas si l'Église prie pour avoir un nouveau pasteur. Oui, non, non. Il y en a qui me disent, franchement, avec énormément d'affection, il y en a qui me disent, j'espère que c'est, si ça change, j'espère que c'est pas trop vite. Ah, c'est mignon, vous êtes gentil, plein d'affection pour moi. Mais quand même, l'essentiel, c'est d'obéir au Seigneur. Quoi. Parce que c'est ça qui est important. En 2010, j'avais déjà entendu, puisque c'est pas de maintenant que le Seigneur, au dernier audit du ministère que j'avais demandé moi-même, j'avais demandé, parce que ma personnalité étant... celle qu'elle est, je me suis dit, les gens de l'Église, ils vont pas me dire si ça va ou pas. Donc, j'ai demandé à ce que deux pasteurs viennent pour auditer le ministère qui est le mien et donc donner une photographie. Et ils avaient, en ce temps-là, je crois que c'était en 2008, ils avaient déjà dit il faut libérer Bernard pour qu'il puisse servir l'Église du Christ, mais pas forcément l'Église locale. Et donc, à cette époque-là, le Conseil n'a pas écouté. Et lors d'une rencontre qu'on a eue ensemble, ils ont dit... Mon collègue pasteur, Yannick, disait « En fait, on ne t'a pas libéré parce que ça nous arrangeait de t'avoir avec nous. » Je peux comprendre, c'est gentil. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut, quoi. Je ne veux pas avoir la prétention, mais je le dis quand même. Actes chapitre 13, verset 1. Vous rappelez ? C'est un verset qui dit « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre que je l'ai accomplie. » Ce matin, le Seigneur dit « Mettez-moi à part, Bernard, pour l'œuvre à laquelle je l'ai accomplie, je l'ai préparée, pour le mystère que j'ai préparé pour lui. » Il y a cette facette de la libération du ministère pour vivre un autre type de ministère, mais pour ça, il faut en même temps prier et en même temps obéir à ce que le Seigneur veut. Cette semaine, faisant mes courses en vitesse dans un supermarché, j'ai rencontré une ancienne membre de notre église, on discute, et puis dans la conversation, elle me dit « Ah, Bernard, il faut déléguer. » Mais franchement, s'il y a quelqu'un qui délègue, je pense que je suis là pour déléguer. Nous étions deux pasteurs pendant 8 ans. J'ai beaucoup apprécié. Hein. Certaines personnes disaient « Ah, Bernard nous secoue et puis Yannick il nous console. » Donc voilà, ça faisait le pendant. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce que pourrait être ou qu'est-ce que pourrait représenter le boulet en question ? Et je répondrai par l'inertie de l'Église, l'inertie. Je prends quelques exemples. Aujourd'hui, on aurait dû avoir un culte appelé un culte du monde. J'avais proposé dans les mails, dans les annonces, que des personnes d'origine étrangère puissent animer ce culte. Personne n'est venu me voir. C'est pas une accusation. Je le dis comme ça. Nous demandons à ce que des personnes se lèvent et viennent, comme hier, prier dans les rues de Saint-Barthélemy, Ben, avec une sœur des ADD, nous étions quatre. Et encore, souvent, on s'était retrouvés seulement à deux. Lorsque on demande aux personnes de s'inscrire pour le week-end ou pour l'évangélisation, ben, on s'aperçoit que il n'y a personne qui s'inscrit. Quand on demande du monde pour le nettoyage, ça va mieux, mais ça a été et c'est parfois encore compliqué. Lorsque j'ai demandé à plusieurs reprises de former une équipe d'évangélisation pour discuter, pour parler des actions de l'évangélisation, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait vivre, et le petit déjeuner qu'on aura le samedi avec les gens ville, c'était ça un peu, c'est... Et essayons de voir si dans l'année scolaire prochaine, tous les deux mois, on pourrait avoir un petit déjeuner, un témoignage, etc. Quand j'ai demandé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, si on pouvait avoir une équipe d'évangélisation, jusqu'à présent, j'ai eu personne. Je dis, l'Église est inerte. Chacun fait avec son cœur, ce qui lui semble agréable, juste, mais nous ne sommes pas à l'unisson. On n'est pas comme les disciples qui se réunissaient ensemble à la Pentecôte. Non, je me trompe. Non, on n'y est pas. Excusez-moi, hein, je ne suis pas là pour vous engueuler, mais... Voyons les choses en face, quoi. On n'y est pas. Chacun fait, ah ben non, ça ne m'intéresse pas trop, ah, ça c'est pas mon truc, ah ben c'est pas, j'ai pas envie, j'ai des bœufs, je dois me marier, j'ai un champ à voir, j'ai... Mais il n'y a pas, dans notre communauté, il n'y a pas d'élan à l'unisson pour vivre ce que le Seigneur veut et souhaite nous faire vivre. Je le redis avec insistance, je ne fais de reproche à personne. Je dis simplement que le jour de la Pentecôte, les disciples attendaient avec passion et à l'unisson. Et il me semble que nous avons perdu et la passion et l'unisson. Comment voulez-vous que l'on vive des temps d'onction spirituellement forts, de l'onction de l'esprit, des guérisons et des conversions, si nous ne sommes pas dans l'obéissance? À notre prière, Seigneur, nous voulons une nouvelle Pentecôte. Jésus nous répond. Moi, j'attends de vous une nouvelle obéissance. On va l'accrocher. Comme ça, on va pouvoir le garder. Et je vous en ai même fait des petits trucs pour mettre dans la Bible. Je vous ai fait aussi la phrase de l'enseignement de dimanche dernier. Dieu le Père n'a pas donné à Jésus tout ce qu'il avait, mais tout ce qu'il est. De la même manière, par le don de l'Esprit remplissant nos vies, Jésus ne nous donne pas tout ce qu'il a, mais il nous remplit de tout ce qu'il est. Vous pourrez mettre dans votre Bible et le méditer et dire « c'est ça que je veux ». Luc 6, 46, voilà, d'accord? Allez, Seigneur, nous voulons une nouvelle Pentecôte et Jésus nous répond, moi j'attends de vous une nouvelle obéissance. Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Si nous avons l'habitude d'entendre qu'à la Pentecôte, c'est la joie de l'effusion du Saint-Esprit, des conversions, de la joie et des dons spirituels, voilà. Et si à la Pentecôte, c'est l'ouverture, bien plus effectivement des guérisons, comme nous pouvons le lire dans les Actes. En ce jour, je souhaite souligner que la Pentecôte, c'est aussi obéir au Seigneur et à être là où il veut que nous soyons, en un accord tacite les uns avec les autres, afin que nous puissions glorifier le Seigneur dans ce qu'il veut, à l'unisson avec nos différences et notre particularité et nos services différents. La substance de cet enseignement, c'est de nous permettre individuellement et communautairement de nous aligner sur ce que le Seigneur veut, ce qu'il veut de nous. Je le dis souvent comme un slogan, ce n'est pas ce que tu penses qui est important, c'est ce que Dieu dit. Je répète, ce n'est pas ce que tu penses qui est important, c'est ce que Dieu dit. Pour reprendre le texte sur les invités, ils n'ont pas voulu sacrifier leur projet pour au profit de l'intimité avec le Seigneur. Accueillons cela, non pas comme une menace, mais comme un choix que nous avons à faire, chacun personnellement, individuellement, et tous ensemble, communautairement. Comme dimanche passé, je vous propose quelques sujets, quelques questions. Es-tu résolu à obéir au Seigneur en tout ce qu'il te demande? En tout cas, j'ai l'impression que tu l'as chanté, règne, que tu l'as rencontré, oui, tu as chanté cela ce matin, mais voilà, es-tu résolu à obéir au Seigneur en tout ce qu'il te demande? Acceptes-tu de faire passer tes projets et ce qui t'est légitime après la volonté de Dieu? Veux-tu vivre le réveil? Apprends alors l'obéissance et à ne pas vivre comme toi tu as envie. Cherches-tu à être d'un commun accord, d'un seul esprit, un seul cœur, avec une même passion et unanimement dans l'Église? Église du Colombier, prends-tu la décision de ne plus être inerte comme un boulet? Si oui, à titre personnel, comment vas-tu t'engager? Ce sont quelques questions qui nous sont posées. Cet enseignement met en relief qu'est-ce que l'on veut vivre en Église. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Je conclue, mais ce n'est pas seulement depuis la Covid où chacun essaye de chercher, ou en tout cas il y a un certain nombre qui se nourrissent par Internet, par les messages reçus là, et puis on pioche, et ça me fait du bien. Ça aussi, ça me convient. Voilà. Et finalement, la vie communautaire, on va dire, n'a plus grand sens, puisque on se nourrit de choses qui nous nourrissent. J'allais dire, on cherche des choses qui sont en train de nous satisfaire personnellement, on fait un espèce de nombrilisme. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Qu'est-ce qui peut me nourrir? Qu'est-ce qui peut m'être agréable? Et donc, on cherche des choses agréables, mais on ne cherche pas forcément. Alors, on cherche la bénédiction de Dieu, bien sûr. En tout cas, j'interroge. Quel est le sens de la vie de notre Église? Pourquoi on est là, tous ensemble, dans ce lieu? Est-ce que c'est parce que le pasteur est sympa? Oui, probablement. Pas suffisant. Pas suffisant. Je vous invite à la prière. Oui, je t'en prie. Viens au micro alors, parce que comme ça.
Avant la parole de Paul sur le fait d'être saisi par le Seigneur, excusez-moi, j'ai mon cœur qui bat beaucoup, ça correspond à la fin du message, de la réflexion. J'avais eu une image avant, et ce n'était pas une belle image, et je me suis dit, je ne vais pas le dire, quoi. Mais maintenant, avec ce que tu viens de dire, je sens que je suis obligé de le dire. En fait, il y a quelque temps, j'ai fait un enterrement. Et vous savez bien que les gens qui préparent les enterrements, ils maquillent les morts. Et donc, je suis allé dans la chambre mortuaire. Et le maquillage de la morte ne donnait même pas l'impression de la vie. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est donc, je m'en suis souvenu de ça. Et là, c'est cette image qui m'est revenue. Il y a, et j'interprète, j'ai le droit ou...
Oui, vas-y.
Donc j'interprète ce que dit Bernard comme le fait qu'il y a quelque chose de mort, et que c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole, mais, et que aller à droite, aller à gauche, etc., c'était comme mettre un maquillage sur quelque chose de notre foi qui est mort. J'ai ressenti l'onction ici, il n'y a pas de problème. C'est pas un jugement, c'est parce qu'on va entrer dans la prière que le Seigneur puisse nous guider. Il y a quelque chose de mort, et en plus, le maquillage qu'on met de chrétien, eh ben, il n'est même pas porteur de vie, il n'est pas beau. Voilà. Donc je demande pardon au Seigneur de ne pas l'avoir donné dès le début. Et puis, voilà.
Merci François. Ceux qui ne savent pas, François a été pasteur. Voilà, et puis avec son épouse, on les accueille volontiers. Prions. Et je vous invite à prendre un temps de prière où, dans ce temps de prière, vous avez le droit d'élever aussi vos cœurs et vos voix. Seigneur, nous venons vers toi. Nous te bénissons de ce que, en même temps, dans la rudesse de ce qui peut être dit et partagé, en même temps, il y a ton amour qui nous dit « revenez vers moi ». Je veux bien vous donner l'onction, mais soyez obéissants dans ce cas-là. Et nous te bénissons et nous te remercions parce que c'est quand tu nous secoues, c'est jamais pour nous condamner, pour qu'on soit complètement atterré, mais c'est pour nous attirer à toi. Et lorsque tu nous dis que les invités qui n'ont pas voulu ne seront plus invités, c'est pour qu'on puisse prendre conscience que c'est important, c'est urgent. On ne peut pas juste dire c'est pas très grave, j'irai une prochaine fois. Jésus, nous voulons te respecter. Et nous voulons prendre conscience, si ce n'est pas le cas, nous voulons prendre conscience ce matin que tu n'es pas un bisounours. Mais qu'avec ton amour pour chacun d'entre nous, pour ton amour, de ton amour pour cette Église, ben, tu as aussi des exigences. Parce que l'amour passe aussi par des exigences. Donne-nous non seulement d'en être conscients, mais donne-nous de vivre en conséquence. Et que les jours et les semaines qui viennent, tu puisses continuer à te manifester dans nos cœurs, de sorte que nous ne soyons pas comme la défunte, mais que nous soyons vivants. Vivants, animés par ton esprit. Pas juste à réclamer des guérisons, des miracles, le parler en langue et d'autres, et des conversions, etc., même si nous les réclamons. Mais nous avons conscience qu'il nous faut faire un boulot au préalable. Et si tu nous interpelles, c'est justement pour que nous puissions le faire, pour que nous puissions nous mettre en marche. Et nous t'en remercions. Seigneur Jésus, viens nous redonner la vie. Viens nous redonner la passion. Enfin, en tout cas, manifeste-toi pour que nous puissions avoir la passion de toi. La passion d'attendre tes grâces dans l'obéissance. Nous voulons, en tout cas moi, je te bénis pour ce jour de Pentecôte, très différent des années passées, mais tellement important pour chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas ici seulement de l'église du Colombier, il s'agit de toi. Il s'agit de notre intimité avec toi. Il s'agit de notre partenariat les uns avec les autres, le fait d'être compagnons ensemble dans ton Église, afin que ton règne puisse se vivre et être manifesté. Je te demande pardon, Seigneur. D'avoir peut-être mis dans cette église quelque chose de joyeux, de vivant. J'ai l'impression d'entendre ce que tu dis à l'église d'Éphèse. Tu crois que tu es riche, finalement tu es pauvre. Tu te crois habillé, finalement tu es nu. Finalement, tu crois voir, mais tu es aveugle. Ressaisis-toi. Église du Colombier, ressaisis-toi. Change. Sois transformé au travers de ton obéissance à ma volonté. Voilà, je vais laisser quelques personnes prier.
Seigneur, comme tu as libérer la Samarie, Jérusalem, des faux dieux, des idoles. Je te demande, Père éternel, de briser les idoles, nos idoles, Seigneur, et nos faux dieux, de nos vies, Seigneur. Je le proclame, Seigneur, afin que ce boulet devienne un joyau, un rubis, Seigneur, un bout de diamant. Sois fier, Seigneur Jésus, d'être ce que nous sommes, ce que nous allons devenir, Seigneur. C'est ce que j'ai reçu tout à l'heure avant la louange, Ésaïe 10:10. Dieu va sûrement supprimer nos idoles, nos statues. C'est ce qu'il a fait à Jérusalem. Il a tout cassé, il a tout brisé. Ben, Seigneur, nous acceptons d'être brisés, Seigneur, afin de retrouver la joie, Seigneur Jésus, la paix, la communion avec toi, avoir un cœur à cœur avec toi, Seigneur, à l'unisson, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur Jésus, accomplir, Seigneur, toutes les prophéties que tu as dites sur le colombier, que nous puissions voler comme des colombes, Jésus, bénir, Seigneur Jésus, encourager, Seigneur. Nous voulons voir des guérisons, des miracles. Ça a été dit, Seigneur, tu l'as dit, tu n'es pas un menteur, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, tu l'as prononcé de ta propre bouche au travers des prophètes. Prépare-nous à cela, Seigneur. Mais brise en nous ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Brise dans l'Église ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. On te le demande, Seigneur, en ce jour de Pentecôte, Seigneur. Merci, Père, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.
Dans un geste de réponse au Seigneur, que ceux qui, pas seulement sont touchés par cet enseignement, mais ceux qui disent « Ok, j'entends que tu veux que j'obéisse, ben, dans ce cas-là, lève-toi en signe devant Dieu que tu veux lui obéir et que tu veux marcher avec lui. » Et que c'est à l'unisson que tu veux que les choses puissent se vivre. Voilà, ce n'est pas une obligation. C'est, je vais terminer par la prière. Lève-toi seulement si tu dis, Seigneur, j'ai entendu ton appel d'obéir et pas seulement de recevoir tes bénédictions. Seigneur, tu nous vois, moi le premier debout. Nous sommes là à entendre que tu nous demandes l'obéissance. Rester à Jérusalem jusqu'à ce que les disciples t'ont obéi, nous voulons nous aussi t'obéir. Entendre, écouter ta voix, mais aussi obéir. Nous sommes là devant toi, debout, en te disant, nous sommes résolus, quelque part, Seigneur, à t'obéir et à marcher avec toi. Vois nos cœurs. Nous sommes comme les gens de Ninive, à nous repentir, à te demander pardon et à vouloir changer, à vouloir changer. Seigneur, nous te demandons de voir nos cœurs contrits, mais aussi prêts à vouloir le changement et la transformation. Chacun personnellement et tous ensemble, communautairement. Nous voulons t'obéir. Écouter ta voix, nous mettre en marche avec toi. Faire de toi notre priorité. Tu n'es pas un accessoire. Tu es la priorité. Tu passes avant tout et nous souhaitons que tu passes avant tout. Et nous voulons marcher avec toi avec amour, avec passion. Voulant vivre l'intimité avec toi. Yeshua, Jésus, viens. Que en ce jour de Pentecôte, tu viennes, mais ouais, pour nous aider à obéir. Nous sommes debout pour toi, Seigneur. Et nous voulons être avec toi. Viens transformer nos cœurs, nos vies, notre entendement, notre manière de vivre. Jésus, Jésus entend notre prière, voit nos attitudes et agit, s'il te plaît, en conséquence. Comme nous l'avons dit, chanté, tu règnes, alors nous voulons, nous, te dire que ta volonté soit faite. Dans notre cœur, dans notre Église, comme ta volonté est faite dans le ciel. Amen.